des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD. C'est sûr que la situation est différente d'une province à l'autre et notre plan va en tenir compte. Mais voici ce qu'il faut retenir. On est là pour assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens à travers le pays pendant qu'on relance l'économie.
Et ça se veut, c'est assez clair. Ça se veut une relance également verte, hein, parce que M. Trudeau disait que ça devait se faire dans le respect là, de la lutte au changement climatique, de sorte qu'il annonce, et on aura plus de détails plus tard aujourd'hui, là, 60 nouvelles initiatives vertes, la moitié d'initiatives qui seront dirigées par les peuples autochtones du Canada. Alors, on verra les détails de tout ça un peu plus tard aujourd'hui. Il a également annoncé des montants d'argent pour pour les Canadiens qui vivent avec un handicap, donc qui ont eu, au dire de M. Trudeau, des dépenses supplémentaires liées à la COVID-19. Entre autres, on peut penser un peu comme dans le cas des personnes âgées, on doit se tourner vers des livraisons. Alors, il y a différentes problématiques qui ont fait que ça a coûté plus cher. Alors, M. Trudeau qui propose, exactement ou presque comme les personnes, comme les aînés, un montant unique non imposable, dans leur cas de 600 $, qui sera donc offert aux Canadiens qui vivent avec un handicap, et de l'aide également aux entreprises pour adapter les milieux de travail. M. Legault en parlait un peu hier, d'ailleurs. On est dans la semaine pour les personnes handicapées. Alors, on veut favoriser des embauches de personnes handicapées dans les milieux de travail. Alors, le fédéral sera là pour donner un coup de main à ces entreprises pour modifier les façons de faire et les endroits, là, des fois physiquement. Et M. Trudeau qui revenait, parce qu'aujourd'hui, une des nouvelles majeures concerne le taux de chômage.
Oui.
Et il a, je vais vous donner les chiffres dans quelques instants, mais soulignait que de moins en moins de Canadiens avaient besoin de la PCU. Alors, cette aide-là d'urgence, on parlait de près de moins 1 million de Canadiens qui s'étaient retirés de la PCU. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça allège un peu et ça allégera un peu le déficit canadien de voir que beaucoup de Canadiens retournent dans le marché du travail. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle.
Donc, les chiffres?
Oui, les chiffres. Je peux y aller avec l'emploi, effectivement, parce que c'est une nouvelle majeure. D'ailleurs, on voyait, pour ceux qui suivent les marchés boursiers aujourd'hui, là, c'est la folie en raison. Et parce que souvent, la bourse va être influencée lorsqu'on les chiffres sont supérieurs aux attentes ou inférieurs aux attentes, parce qu'il y a toujours des projections. Et dans le milieu de l'emploi, on s'est vraiment fait surprendre ce matin par des chiffres de chômage beaucoup plus bas que prévu au Québec, au Canada et aux États-Unis. Au Québec, c'est 13,7. Évidemment, c'est beaucoup là, par rapport à pré-COVID.
Oui, on avait le plein emploi. Quasiment.
Mais on était au mois d'avril à 17. Et là, on vient de passer à 13,7. Alors, un retour de beaucoup de Québécois à l'emploi. Alors, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'était la croissance de l'emploi la plus forte parmi les provinces canadiennes. Alors, c'est excellent. Aux États-Unis aussi, c'est pour ça qu'on voyait les marchés boursiers être en forte hausse ce matin, et c'est toujours le cas présentement. Taux de chômage, Sophie, qui était évalué, là, on évaluait que pour les chiffres qui allaient sortir ce matin, le chômage frôlerait aux États-Unis les 20%, dépendamment de quelle agence. On regardait Barclays, par exemple, c'était 17,5, d'autres jusqu'à 19,5. On était finalement à 13,3. Alors vraiment, là, surpris tout le monde.
Oui, je pense qu'il y a un chiffre qui a circulé dès qu'il s'est créé 2,5 millions d'emplois au mois de mai. Donc, ça explique pourquoi la bourse... Quoique la bourse de ces dernières semaines réagit de façon complètement irrationnelle, mais au moins, dans ce cas-là, il y a un semblant d'effet de cause à effet. Là.
Effectivement. Puis là, on parle pas d'une piste de traitement.
Remdesivir. Là.
Exact. Là, on parle de 2,5 millions d'Américains qui sont retournés au travail ou qui se sont trouvés de l'emploi. Alors, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, Donald Trump était... triomphant, là.
Il a sûrement pris une partie du crédit. Grâce à lui.
Il a pris tout le crédit, alors qu'évidemment, il n'avait pas pris le crédit de la baisse. On comprend que les États ont ouvert leur économie. Alors que c'est pas. On peut pas.
Mais tu sais, c'est quoi la phrase célèbre? La phrase célèbre, c'est évidemment, je vais la moffer parce que je suis l'Ephrem des citations.
Oui.
Si je dis Ephrem, tu vois, c'est qui?
Le petit Ephrem? Je sais pas.
Ephrem, c'était dans une émission de télé. Ephrem, c'est le personnage qui n'est jamais capable de raconter des blagues comme du monde.
L'ancien Saint-Forien, c'est ça, j'ai pas vraiment ton époque.
Bon, alors donc la citation que je voulais donner, c'est la victoire, la défaite est orpheline, mais la victoire a plusieurs parents. Autrement dit, quand tu gagnes, ben là tout le monde dit ah ben moi j'ai participé à la victoire, Puis quand tu perds, ben tu te retrouves vraiment tout seul, puis il y a plus personne qui va être associé à toi.
Et la chute de l'emploi aux États-Unis, on pouvait pas la blâmer, on pouvait pas blâmer Trump pour ça. C'est la pandémie.
C'est la circonstance.
Mais le retour à l'emploi, on ne peut pas non plus dire que c'est Trump.
Mais il en a sûrement tiré la couverte.
Ben, il disait que la seule personne qui pouvait débattre la force de l'économie américaine, c'était Joe Biden. Alors évidemment, il a tweeté ça tantôt.
Es-tu sérieux? Il a répondu ça.
La seule personne qui pourrait causer du tort à l'économie américaine, selon M. Trump, c'est M. Biden. Alors, c'est de bonne guerre, là, mais on s'en voit... Évidemment, aujourd'hui, il va prendre le crédit pour tout ça. Effectivement, les marchés qui étaient en forte hausse. Alors, pour ceux qui avaient perdu beaucoup là, dans leur fonds de pension, ben, sachez que ça va bien. On est presque un retour après pré-COVID. Là, oui.
Oui, en tout cas, si je parle du duche, c'est pas mal ça. La relance économique, les exigences, oui, pour les futurs préposés aux bénéficiaires, parce que c'est aujourd'hui que ça se termine de s'inscrire pour devenir PAB, préposé aux bénéficiaires. Et je sais que nos collègues Maud Boutet et Jonathan Trudeau, qui est allé faire un tour sur le site au moment où ça a été mis en ligne, disaient, voyons, c'est minimal, hein? Ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse courriel, c'est pas suffisant. Donc, ça prend des exigences. Là.
Oui, et on sait que là, les gens commencent à recevoir une liste de questions, questionnaires. M. Legault en a fait référence, hier à ça, où on allait vérifier, entre autres, est-ce que vous êtes prêt à travailler de nuit, est-ce que vous êtes prêt à avoir des horaires instables et tout ça. Et M. Legault l'avait sous-entendu hier, sans donner trop de détails, qu'on allait probablement demander aux gens de s'engager là, pour un certain temps, évidemment en raison du coût de cette formation-là qui est payée, 21 $ de l'heure, alors il y a eu un coût pour ça. Et finalement, les candidats devront s'engager à être disponibles pour travailler à temps plein pendant au moins un an. Alors, un peu comme ce qu'on retrouve dans l'armée, là, on te forme, mais ensuite, tu accordes un 5 ans, par exemple.
Ben oui, parce que c'est très frustrant, sinon, on va avoir... Puis c'est surtout que si quelqu'un décide de faire la formation, commence à travailler, puis après s'en va, ça veut dire qu'il a pris la place de quelqu'un qui aurait pu travailler. Parce que la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'il nous manque de bras. Alors, si les bras s'en vont au bout d'un mois, ça donne rien. Là. On doit recommencer l'exercice à zéro.
Exactement. Et on est inquiet que les gens profitent tout simplement de l'été pour être payés pour une formation, puis qu'ensuite, ils ne se rendent jamais en CHSLD ou qu'il n'y ait vraiment pas d'intérêt à se rendre. Alors, ça va éviter ça. C'est une nouvelle exigence, donc, imposée par Québec. On est rendu à pratiquement autour de 80 000 inscriptions. Là. Probablement des doublons là-dedans, mais quand même, ça a été très populaire au-delà des attentes. Alors, on verra. C'est tout, honnêtement, c'est un travail
logistique
incroyable qui devrait être fait d'ici une semaine pour choisir tout le monde, les inscrire et démarrer la formation dans à peine
15
un
juin,
peu plus
on
qu'une semaine.
15 juin, c'est
donc
énorme.
C'est vraiment si c'est réussi et que ça se passe bien, ça va avoir été un tour de force incroyable.
Mais de toute façon, François Legault a mis sa tête sur le bio d'une certaine façon en disant, écoutez, ça va être mon héritage politique là, de si à la fin de mon mandat j'ai réussi ça, ben ce sera vraiment mon fait d'armes. Donc c'est vraiment estampillé Legault partout. Donc il faut que ça marche.
Il faut que ça marche. Effectivement.
Je pense qu'il y a une troupe de fonctionnaires. Ouais.
On dit qu'il y avait une armée là, de fonctionnaires qui allaient faire des entrevues téléphoniques. Vous imaginez 80 000 entrevues téléphoniques ou 50 000, même si on a 50 endroits où on en fait, c'est tout un travail.
C'est énorme. Écoute, je suis passée trop rapidement et tu m'en excuseras, mais le bilan des décès aujourd'hui, ça ressemble à quoi?
Oui, bilan qui vient de sortir. Donc, 50 nouveaux décès, 33, on se rappelle, on les divise maintenant, le 33 dans les dernières 24 heures, mais on en ajoute là aujourd'hui 17 qui datent d'il y a plusieurs jours. Alors, quand même, 50 décès. Au niveau des cas, vraiment, on est rendu toujours en bas de 300, 255 nouveaux cas au Québec, moins 46 hospitalisations. On est rendu là à 1030. Alors ça, c'est tendance très solide. On est vraiment, ça sort des hôpitaux et c'est une bonne nouvelle. 131 personnes hospitalisées aux soins intensifs, c'est moins 15 aussi. Alors vraiment, on suppose que j'aimerais avoir des statistiques sur l'équipement. Là. Tu vois, à un certain moment, on était à 3 jours de manquer d'équipement. À mon avis, là, ça arrive parce qu'on en a commandé énormément. Et avec les gens qui lient et qui quittent les hôpitaux, à mon avis, on aura des réserves en masse si jamais on se retrouve malheureusement avec une deuxième phase.
Oui, une deuxième vague. Bon, là, on sait que les parcs vont ouvrir en juin. Et évidemment, il y a des gens à la CEPAC qui n'ont rien trouvé de mieux que dire « Hey, on était censé faire une grève avant cette affaire-là. On va remettre ça sur le feu, cette idée de grève-là. »
Oui, il y a une inquiétude, hey, là, clairement.
C'est un peu décourageant, excuse-moi, là, mais comme future utilisatrice de parc.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens l'été dernier qui avaient été extrêmement inquiets, là, qui avaient vu même des réservations annulées en raison de moyens de pression dans les parcs de la CEPAC, alors que quand même 2200 membres du syndicat là, sont en renouvellement de convention collective, en fait, n'ont plus de convention collective depuis décembre 2018. Et on avait reporté les négociations en raison de la COVID, là, ça a repris, mais on sous-entend donc qu'on pourrait avoir des moyens de pression et des grèves à partir de la fin du mois de juin, ce qui pourrait toucher des week-ends, pourrait toucher même de la période du travail de la construction, par exemple. Au syndicat, on se veut quand même rassurant, disant que les parcs, là, même s'il y a grève, c'est quand même ouvert un peu et qu'on aura quand même des accès, mais ça décourage certains qui ont tellement hâte de sortir de la maison, tellement hâte de profiter des parcs, de profiter des chalets, des locations, ça en inquiète certains, mais on sait, il y a quand même un objectif là-dedans de faire
serrer
des menaces,
vis, ouais, serrer la vis, pression, ouais.
Mettre de la pression. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour ramener tout le monde à table, s'assurer qu'il y ait une négociation efficace? On le souhaite parce qu'on espère que les parcs seront ouverts à plein cet été.
Et une chose, Vincent, qui m'a frappée depuis le début de la pandémie, c'est à quel point, tu sais, on disait, bon, tu sais, c'est important d'aller dans les parcs puis de libérer l'accès aux parcs, mais ça ne m'avait jamais frappée autant que, tu sais, c'est comme quand tu es privé de quelque chose, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est important. Les bienfaits psychologiques, juste d'être en contact avec de la nature, à quel point c'est parce qu'on était confinés. Oui, mais tu sais, on aurait pu juste se promener dans les rues, mais de fait d'aller dans des parcs, puis je t'ai fait quelques recommandations.
Absolument, je t'en remercie.
Quelques recommandations, mais à quel point ça fait un bien énorme. C'est pas juste de pouvoir sortir, c'est d'être en contact avec la nature. C'est un besoin essentiel chez l'être humain, surtout dans des périodes, il faut se le dire, ça a été excessivement difficile psychologiquement les dernières semaines. Et on a besoin de ça, comme on a besoin d'air pour respirer, on a besoin de prendre un arbre dans nos bras.
Oui, et il y a des études très solides qui prouvent le bienfait sur la santé mentale et physique d'aller dans le bois, que ce soit 15 minutes dans une journée, ou même il y a des effets là, qui sont assez marquants. Donc oui, aller marcher, on a des parcs extraordinaires au Québec.
Là,
moi qui viens de la région de Québec, là, on a le parc de la Jacques-Cartier qui est à une trentaine de minutes de Québec, absolument merveilleux. Donc oui, on espère que tout se passe bien là-bas cet été et qu'on puisse s'y rendre. Et pour respecter la distanciation, s'assurer que ce soit... On a besoin des employés sur place.
C'est ça.
Alors, on souhaite que tout le monde soit là. Un mot, Sophie, parce qu'on parlait de l'emploi, qu'il y avait des bonnes nouvelles. Quand même une très mauvaise nouvelle aujourd'hui qui touche Bombardier Aviation qui a confirmé qu'on va abolir 2500 emplois.
C'est énorme.
1500 au Québec en raison de la pandémie. C'est la division le Bombardier Aviation qui, évidemment, dans une industrie complètement
bouleversée.
C'est l'effet
domino. C'est sûr. Il n'y a plus de gens qui prennent des avions, donc pourquoi les compagnies achèteraient des avions?
Et là, on est dans les avions d'affaires, donc évidemment, il y a des milliardaires, il y en a, là, même qui plusieurs ont fait de l'argent même dans la période de la pandémie, mais il y a quand même un ralentissement important qui est évalué à peu près à 30% sur un an des avions d'affaires, et ça amène donc des licenciements quand même importants. On va donner les détails plus tard sur les usines les plus touchées, mais c'est plein de bons emplois, bien payés malheureusement au Québec. D'ailleurs, on jugeait ces décisions incompréhensibles du côté du syndicat des machinistes, entre autres parce que Bombardier refuse de rendre accessible le programme de subvention salariale à tous ses employés. Donc, on se questionne à savoir pourquoi on n'a pas utilisé tous les moyens pour pouvoir au moins garder des emplois plus longtemps. Alors, on verra, mais chez Bombardier, on fait du ménage. On disait qu'on n'a pas le choix en raison de l'économie actuelle.
Oui, écoute, on peut pas, évidemment, en cette période de pandémie, avoir un bulletin où on partage pas des frasques de Donald Trump. Ben, tu nous as dit tout à l'heure quand même son tweet concernant Joe Biden, le candidat démocrate. Mais là, c'est une lettre à propos des terroristes. C'est quoi cette affaire-là?
Oui, parce que Donald Trump, ce matin, avant d'avoir les nouvelles de l'emploi là, qui lui ont permis de se péter les bretelles, Donald Trump a partagé, ça a fait beaucoup jaser, un message, a fait une lettre envoyée sur les réseaux sociaux par son ex-avocat, John Downe, qui lui, donc, dans ce texte-là, critique les manifestants qui étaient autour de l'église là, qu'on a fait évacuer juste avant que Donald Trump arrive pour prendre
avec
des
sa
photos.
Fameuse Bible.
Exact, avec sa Bible, plutôt cette semaine. On sait que c'était des manifestants pacifiques, là, moi-même qui le regardais en direct, là, il n'y avait pas de violence là du tout. Mais dans son texte, donc, partagé par le président des États-Unis, on peut y lire « Les faux manifestants près de Lafayette Square n'étaient pas pacifiques et ne sont pas réels. Ce sont des terroristes qui utilisent des étudiants remplis de haine pour l'embrasement et la destruction. Ils ont abusé et manqué de respect envers la police alors qu'elle préparait la zone pour le couvre-feu de 19h. » Alors, on les décrit carrément comme des terroristes.
Mais voyons
alors que c'était,
donc.
Effectivement, on approchait du couvre-feu, mais on n'était pas encore dans le couvre-feu. Ça se passait plutôt bien. Alors que, d'ailleurs, plusieurs participants à ces manifestations ont déposé des plaintes contre Donald Trump et contre le ministère de la Défense et des hauts fonctionnaires pour violation du premier amendement américain qui concerne la liberté d'expression parce que les Américains sortent souvent la Constitution et on le retrouve, là, on retrouve ce droit de manifester pacifiquement dans la Constitution. Alors, ça fait jaser. Alors, est-ce que c'est des terroristes ou des manifestants pacifiques? Monsieur Trump sera sûrement questionné là-dessus. On verra sa réponse aujourd'hui.
Puis j'ai hâte de voir aussi ce qu'il va dire sur ces images absolument terribles. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, Vincent. C'est à New York. Il y a quelqu'un de NPR qui filme et c'est on voit des policiers arriver vraiment habillés comme des Robocop. Là. Puis un vieux monsieur, je m'excuse de le dire, mais il est vieux.
Il a 75 ans, je pense, le monsieur. Oui.
Ben, il est vieux. Bon.
C'est pas une jeunesse.
Non, mais c'est parce que tu sais, il faut faire attention aujourd'hui, là, tu sais, dire une personne âgée. Là. Bon. Un vieux monsieur qui arrive devant les policiers qui sont vraiment en rang d'oignon, là, qui avancent d'un pas décidé. Et manifestement, il va les voir juste pour leur poser une question ou quelque chose comme ça. Et il y a un des policiers qui le repousse tellement fort que le monsieur tombe à terre, commence à saigner. Et non seulement les policiers ne s'arrêtent pas pour lui porter assistance, mais il y en a un qui fait mine de le faire et ses autres le rabrouent et le reprennent avec lui en disant, tu sais, l'air de dire, ben là, non, occupe-toi pas de lui. Et donc, semble-t-il que les deux policiers qui l'ont poussé et celui qui a refusé de lui venir en aide ont été suspendus par la police.
Et effectivement, il ne faut pas dire que le monsieur était dans une foule, là, il est vraiment seul.
Mais ce qui est intéressant, ça en plus, je m'excuse, je vais terminer là-dessus, c'est qu'au début, les forces de police avaient dit « Ah, le monsieur, he tripped and he fell. Il s'est enfargé dans ses souliers, mettons, et il est tombé. » Mais après, les images sont sorties. C'est comme... Comment en 2020, il y a encore des gens qui peuvent penser qu'il n'y aura pas une image quelque part qui va venir contredire votre discours? Dites pas des niaiseries parce que vous risquez d'être contredit. Bref, c'est des images, vraiment, ça donne froid dans le dos. Là. C'est pas rassurant du tout. Là. Pauvre petit monsieur qui se fait jeter à terre. Et écoute, tu vois le sang couler. C'est absolument terrible ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup, Vincent.
Merci,
on va se
Sophie.
Retrouver plus tard, évidemment, pendant la programmation de Cube. Après la pause, manquez pas ça, une entrevue avec Maca Cotto, un ancien collègue d'ici, hein, l'année dernière. Avec Caroline Saint-Hilaire, il avait tenu micro pendant tout l'été. Bref, Maca Cotto, acteur, auteur, animateur et ex-ministre de la Culture et des Communications. De quoi vous pensez qu'on va parler, bien sûr, de racisme systémique?
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
Cube Radio.
Alors, l'année dernière, vous avez pu l'entendre quotidiennement sur les ondes de Cube Radio. Maca Cotto, il est acteur, il est auteur, il est animateur et aussi ex-ministre de la Culture et des Communications au Parti québécois. Et je voulais lui parler de ces questions qui sont soulevées quotidiennement ces jours-ci, à savoir, est-ce qu'on est plus équipe François Legault qui dit que le racisme systémique n'existe pas ici, ou équipe Trudeau qui dit qu'au contraire, le racisme systémique est non seulement existant, mais virulent au Canada. Donc, Maca Cotto est au bout de la ligne. Bonjour Maca, comment vas-tu?
Bonjour Sophie, ça va bien, toi?
Oui, malgré les circonstances, moi ça va bien. Quand on parle de racisme systémique, Maca, toi, dont la peau est noire, Est-ce que, et qui est marié avec une femme blanche, Caroline Saint-Hilaire, qu'on salue, est-ce que tu sens qu'au Québec, cette relation, par exemple, avec une femme dont la couleur de peau n'est pas la même que la tienne, est-ce que ça pose problème au Québec des mariages interraciaux?
Ça pose probablement problème chez des gens qui sont encore, entre guillemets, dans des références qui ont marqué le temps où la domination, voire la soumission des Noirs a été, mettons, une chose normale, entre guillemets, dans la vie. Il ne faut pas perdre de vue le fait que ce que nous vivons aujourd'hui relève de siècles et de siècles passés, mm-hmm. de générations passées. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu l'histoire de l'esclavage, il y a eu l'histoire de la colonisation qui ont fait des victimes et en Afrique et aux États-Unis. Le problème de racisme systémique, voire structurel, dont parle l'ONU depuis hier, vient de là. Aux États-Unis, on n'a pas réglé. Les États-Unis n'ont pas fait la paix avec eux-mêmes, avec leur propre histoire.
Mm-hmm, c'est bien dit.
Ce qui fait que des phénomènes comme ceux qu'on vit actuellement, quand ils se déclenchent, ils embrasent la planète entière. On a vu que ce n'est pas seulement au Québec qu'il y a eu des manifs, mm-hmm. il y a eu en Europe, un peu partout, même en Afrique. Alors, quand on parle de racisme systémique aux États-Unis, il faut remettre les choses en contexte. Ça part d'une histoire d'esclavage qui n'est toujours pas réglée, d'une histoire de réparation demandée, exigée depuis toujours par des Noirs, par des Blancs et autres, pour une simple question principe de justice historique. Ça part de l'histoire de la ségrégation, ça part de l'histoire du Ku Klux Klan. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, on pendait encore des
Absolument.
Noirs. Absolument. Comme des... On parle d'ailleurs ces jours-ci du poème de l'enseignant juif Abel Méropol. Il avait écrit à l'époque en 37 de mémoire Strange Fruit,
oui.
Fruit étrange.
Absolument.
Que Billy Holiday a mis en chanson. Voilà, a mis en chanson. Et cette chanson, si les gens peuvent la retrouver, elle doit être en ligne, elle nous parle d'il y a presque 100 ans. Et ce qu'on disait il y a 100 ans, on le vit encore aujourd'hui. Ça veut dire, conclusion, que ce problème noir-blanc relativement à l'héritage historique n'a pas été réglé. Et que, étant donné que les États-Unis sont un modèle de référence, un modèle d'identification pour l'Occident, pour le monde libre, quand ça éclate là-bas, ben ça rejaillit partout sur le monde libre.
Oui, mais c'est très important, toutes les remises en contexte et les remises en contexte historique que tu fais, Maka. La question qui se pose ici au Québec, c'est beaucoup de gens, il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui disent il ne faut pas apposer au Québec la grille d'analyse des États-Unis puisque la situation économique, la situation historique n'est pas du tout la même. Puis il y a d'autres gens qui disent ben vous si vous faites ça, vous vous mettez la tête dans le sable comme une autruche et vous faites semblant de pas voir que oui au Québec, il y a eu des esclaves, que oui au Québec, il y a eu de la discrimination et qu'il y en a encore aujourd'hui. Donc toi, je veux savoir, tu es de quelle école? Est-ce qu'on peut appliquer cette grille-là d'analyse au Québec ou pas? Est-ce qu'elle est pertinente ou pas au Québec?
Moi, je dirais que je suis de l'école des faits. et comme tu viens justement de le rappeler, il y a du racisme, il y en a eu au Québec, au Canada. Il y a de la discrimination, et il y en aura probablement encore, tant qu'il y aura des poches des problèmes d'éducation, mm-hmm. des poches d'ignorance, quand il y aura des relents de suprématisme blanc en l'occurrence, parce que si aujourd'hui, aux États-Unis, on vit encore ces problèmes de tension, de haine et de violence entre blancs et noirs, c'est le fait originel du suprématisme blanc que Tocqueville, d'ailleurs, dans son brûlot sur la démocratie, disait au dernier chapitre, il en parlait au dernier chapitre, il a dit, si ça s'embrase, je le dis en résumé, si ça s'embrase un jour aux États-Unis d'Amérique, ce sera du fait du suprématisme blanc qui aura perdurer et on le vit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut transposer la chose au Québec? Les choses sont plus subtiles au Québec. On sait, par exemple, je prends cet exemple-là, on est dans les médias, t'es à la radio, il y a la télévision, il y a le cinéma, qui sont des véhicules d'imagerie et de modèles qui nourrissent l'inconscient collectif. Alors, quand on grandit, quand on a des enfants qui grandissent dans un environnement où à la télévision, au cinéma, il n'y a pas de modèle de référence auquel les gens peuvent, notamment les minorités en général, les Noirs en particulier, peuvent s'identifier positivement, il y a un problème. Ça inscrit dans l'esprit ou dans la psyché des Noirs le fait qu'ils ne sont pas inclus dans,
mais,
dans l'image de cette société.
Maca, quand on regarde...
Je termine là-dessus pour répondre à la question. Et ça insuffle dans l'inconscient collectif caucasien le fait que, oui, c'est des gens qui ne sont pas nous, qui ne sont pas comme nous et qu'on peut marginaliser. Donc, il y a comme un jardin de culture de la discrimination. C'est ce qu'on peut appeler discrimination structurelle ou systémique, mais racisme systémique ou racisme structurel. Au Québec, je ne peux pas aller jusque-là. Je peux parler de discrimination systémique. Je viens de donner un exemple. Je peux m'étaler là-dessus si on a le temps.
Oui, ben je veux juste te faire réagir au fait que depuis des années maintenant, une des personnalités les plus aimées, les plus appréciées, les plus rémunérées, les plus visibles au Québec, c'est Normand Brathwaite.
Nomme-en 10 autres.
Non mais oui.
En comparaison avec entre guillemets les modèles caucasiens véhiculés à travers les médias. Nomme-en 10 autres venant de la diversité.
Ben, Philippe Femiou, Rebecca McConnell, je peux t'en nommer.
Alors,
ben, je veux dire, toi, t'as joué dans des films.
Oui, non, mais je veux pas être l'arbre qui cache la forêt. Si on fait un vox pop sur la rue, en donnant ces noms-là, il faut, et à titre comparatif avec les modèles caucasiens qui sont véhiculés à travers les médias, on peut faire très facilement le bilan de ce que les gens intègrent dans leur psyché. On peut voir jusqu'à quel point ils considèrent que c'est des gens qui font partie de nous. Je ne suis pas en train de juger la société québécoise. Ce que je fais ici, c'est mettre en garde relativement au fait que, consciemment ou inconsciemment, on peut tomber dans le piège de la marginalisation, de la discrimination et du racisme, et puis le réaliser seulement une, deux générations plus tard. Mm-hmm. C'est important que le terrain, le jardin sur lequel nous vivons, la maison dans laquelle nous vivons, soit bien consciente du fait que le « nous », ça se bâtit, ça se construit, et sur toutes les dans toutes les sphères de l'activité humaine.
Ouais. Mais Maca, tu es en train de me dire que si tu penses que si on fait un sondage dans la rue aujourd'hui, au coin de Sainte-Catherine et Berry, et que je parle aux gens de Normand Brathwaite, les gens vont pas considérer que Normand Brathwaite, c'est un Québécois comme un autre? Qu'ils considéreront pas qu'ils font partie d'un « nous » collectif?
Non, je parle d'une dizaine de références issues de la diversité. Normand Brathwaite, c'est sûr, il a fait son chemin, comme Daniel Laferrière, ils ont fait leur chemin, mais il ne faut pas que ce soit des arbres qui cassent la forêt. Il est important de mettre en perspective la diversité pour que le sentiment du « nous » soit partagé de part et d'autre. Il y a des tensions, on en parle très peu. On en parle très peu. L'école fait un effort là-dessus. Mm-hmm. Je vois, par exemple, à l'époque où mon fils aîné allait à FACE, il y avait cet effort de cultiver, d'amener les jeunes à se considérer au-delà de leurs différences. Et justement, c'est par le biais du théâtre, par exemple, qu'ils apprenaient l'histoire de l'esclavage. C'est par le biais de la poésie qu'ils des chansons comme Strange Fruit. Moi, j'ai eu des discussions avec il a aujourd'hui 27 ans, mais il avait 14 ans quand on en a parlé de Strange Fruit. Hein? C'est important de ramener. Quand, par exemple, on parle des Acadiens, on parle des Québécois qui ont été colonisés, entre guillemets, par les Anglais, parfois, on comprend pas, la majorité comprend pas pourquoi des gens issus de la diversité ou de l'immigration n'ont pas la même sensibilité relativement aux autochtones québécois, caucasiens en l'occurrence. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas cette histoire. Et donc, il faut la partager, cette histoire, par tous les moyens possibles, par l'école, par la télévision, par le cinéma, pour qu'il y ait, disons, une pacification des liens entre les Blancs et les Noirs, en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'il en est question.
Oui. Alors, je veux juste te citer quelque chose. Cette année, c'est vraiment un hasard. Je suis sûre que ça n'a évidemment rien à voir avec la situation. Le porte-parole de la fête nationale, ça a été décidé il y a plusieurs semaines, c'est le comédien Didier Lucien. Et nous, en début de semaine, avec Hugo Veilleux, le recherchiste, on a contacté Didier Lucien parce qu'on voulait faire une entrevue avec lui où on aurait parlé, évidemment, de la fête nationale. Mais on aurait aussi parlé de la situation aux États-Unis et ça a été vraiment une fin de non-recevoir. Là. C'est vraiment jamais, non, il est hors de question qu'on parle de ça. Et là, il y a toute une controverse et même les gens de la fête nationale sont obligés de viennent tout juste là d'émettre un tweet parce qu'ils avaient publié un avis hier en disant, écoutez, Didier Lucien va donner des entrevues pour parler de la fête nationale, mais il refuse qu'on lui pose des questions sur la situation actuelle aux États-Unis. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Parce que je me dis, c'est au Québec, la fête nationale, la personne qu'on choisit comme porte-parole, c'est quelqu'un qui est noir et qui, justement, aurait pu nous rassembler autour de cette question-là. Alors, il refuse. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, comme ancien ministre de la Culture?
Je peux comprendre sa posture parce que depuis 2000, juste pour rappeler, depuis l'an 2000, il y a eu 14 émeutes aux États-Unis, et qui, des émeutes qui ont eu des impacts juste ici au Québec. 14 émeutes parce que des policiers qui avaient maltraité, humilié des Noirs n'avaient pas été condamnés. 14. Et depuis ce temps-là, à chaque émeute, il y a des manifs, il y a des gens qui prennent la parole publique pour justement faire de la pédagogie, entre autres, ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et à terme, comme il n'y a rien qui bouge, ça peut fatiguer le monde. Il y en a qui sont fatigués. Michael Jordan a, pour la première fois de sa vie, posé un geste politique, je dirais, avec un tweet où, justement, il termine par « on en a assez ». Les gens sont fatigués. Prendre la parole, pour revenir à Didier, prendre la parole publique aujourd'hui dans ce contexte, moi, j'ai géré ma colère. Parce que à chaque émeute, j'en ai cité 14, il y avait de la colère en moi, mais je ne parle pas publiquement parce que je suis sous l'effet de la colère. Il est déconseillé de parler sous l'effet de la colère. Il est possible qu'il soit encore habité par la colère. Mmh. Il est possible qu'il prenne parole publique et dérape. Donc, sagesse oblige. Je pense que je ne lui ai pas parlé, je ne sais pas ce qui a motivé, mais moi je pense qu'à l'instar de beaucoup de gens d'ascendance africaine, il y a beaucoup de colère.
Je comprends. Mais on l'entend, cette colère-là.
Ouais. Voilà. Et amener les gens à parler publiquement de cette question alors qu'ils n'ont pas encore le recul. Moi, j'ai milité là-dessus depuis l'âge de 22 ans. Et je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de ce qui est arrivé aux États-Unis récemment. Parce que, justement, je place cet événement sur la ligne du temps. Et cette ligne du temps nous amène de l'esclavage jusqu'à la discrimination et au racisme haineux d'aujourd'hui. Ouais. Inhumain même, je dirais.
Maka, on va se laisser. Merci beaucoup d'avoir choisi de prendre parole malgré cette colère. Et c'est très apprécié. Puis merci pour ta leçon d'histoire qui est très appréciée. Puis on va se quitter justement avec cette chanson de Billie Holiday dont tu nous parlais tout à l'heure, Strange Fruit.
Merci, Sophie.
Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the sun.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
Alors qu'au Québec, on est en plein déconfinement, c'est le moment justement de réfléchir à ce qui a mené à ce confinement, sur quel genre de modèle, sur quel genre de prévision, de pronostic on s'est basé pour décider d'appuyer sur pause, comme l'avait dit François Legault. Ben, il y a l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, qui vient de publier un avis sur la question en disant, ben, le modèle qu'on a utilisé pour confiner, pas juste au Québec, mais l'ensemble du Canada, c'est un modèle qui ne tient pas la route. On va en parler avec un des auteurs de la publication. Il s'appelle Gaël Campan. Donc, il est économiste senior à l'IEDM. Bonjour, M. Campan.
Bonjour et merci de me recevoir dans votre émission.
Ben, écoutez, je trouve que ce sont des questions absolument passionnantes. Pourquoi vous dites que le modèle qu'on a utilisé au Canada pour se confiner, pourquoi ce modèle est-il défectueux selon vos mots?
En fait, d'abord, c'est pas nous qui le disons. Effectivement, il y a eu d'autres observateurs, d'autres spécialistes qui se sont penchés sur ce modèle quand ils ont commencé à réaliser qu'il y avait une déconnexion très forte entre les prévisions catastrophistes et la réalité du terrain quand on a commencé à avoir des données réelles sur le virus. Ils ont regardé ce modèle de près et ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs problèmes, qu'il était d'abord, il utilisait un langage de programmation qui était obsolète, qu'il était mal programmé, que les hypothèses n'étaient pas documentées correctement, et que quand on utilisait ce modèle avec différents ordinateurs dotés de différentes puissances processeurs, il donnait des résultats différents.
Ouch.
Et donc en fait, il n'était pas du tout fiable.
Ouais.
Et le choc entre guillemets, c'est qu'il est quand même le produit d'un institut qui par ailleurs, qui est donc l'Imperial College of London, qui par ailleurs est très respectable, prestigieux, qui fait autorité sur plein de sujets, qui produit de la qualité dans 99% des cas. Mais dans ce cas précis, avec le cas du professeur Ferguson, le résultat était vraiment médiocre. Et malheureusement, c'est sur ces prévisions catastrophistes que certaines des mesures les plus strictes ont été prises en matière de confinement.
Voilà. Alors, selon ce modèle-là, selon le modèle du professeur Ferguson, on annonçait ou on prévoyait que si on faisait rien, qu'il y aurait 326 000 personnes qui mourraient au Canada cette année. Bon, là, c'est sûr que c'est facile après d'arriver puis de dire, bon, ben là, on a confiné puis finalement, ben, il n'y a pas eu 326 000 décès au Canada. Mais est-ce que c'est pas un peu confondre le traitement et le patient, c'est-à-dire que, ben oui, c'est sûr qu'il n'y a pas eu tant de morts que ça, puisqu'on a confiné. Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas la preuve qu'on a eu raison d'utiliser toutes ces mesures-là?
Vous avez raison, en fait. Ce n'est pas une preuve, puisqu'on a d'autres points de comparaison. Il y a un certain nombre de pays développés qui ont décidé de ne pas prendre la voie du confinement strict, qui ont pris d'autres mesures plus soft, soit l'autodiscipline en Suède, soit le port systématique du masque dans les pays asiatiques où c'est très naturel de le faire. Et ils ont obtenu de très très bons résultats. Donc effectivement, on sait ce que le confinement nous coûte et les bénéfices, c'est plus spéculatif. Alors qu'on voit les pays dans lesquels il n'y a pas eu de confinement strict, et ils ont un très faible nombre de décès. Donc on voit que leur approche était au moins aussi valide, plus efficace en fait que le confinement.
Ouais. Alors vous donnez par exemple dans cette étude, c'est drôlement intéressant, hein? C'est sûr quand on se met à jongler avec des chiffres, des fois c'est assez spectaculaire, mais par exemple le modèle du professeur Ferguson, il prévoyait qu'au Japon il y aurait 1,4 million, donc 1 million 400 000 morts. En fait, il y en a eu 657. Ce qui est pour nous quasiment une petite journée. Donc, il y en a eu 657 et au Japon, on n'a pas du tout confiné. Donc, il doit y avoir quelque chose dans la recette japonaise ou dans la recette même de Corée du Sud qui fonctionne. C'est pas un peu frustrant de regarder ça puis de se dire, au Canada, on a confiné et on n'a pas promu l'utilisation du masque alors que dans ces pays-là, on a fait le masque sans le confinement avec des meilleurs résultats.
Disons, le but de notre publication, c'est pas de refaire l'histoire ou de pointer du doigt certaines décisions qui ont été prises.
Alors, c'est quoi le but, alors?
Un peu d'information.
Ouais, c'est quoi le but?
Le but, c'est de dire, de prendre en compte le fait qu'il y a eu différentes approches qui ont eu lieu et que certaines ont mieux réussi que d'autres. Déjà, la Norvège, par exemple, qui a appliqué un lockdown assez strict, un confinement assez strict, en train de revenir, a annoncé déjà il y a près d'un mois, reconnaître que ça n'avait pas du tout porté les fruits qu'ils imaginaient que ça porterait. Donc il y a moyen d'apprendre de ces erreurs et de dire la prochaine fois, l'intérêt, à notre avis, de l'étude, c'est de préparer l'avenir, de dire un événement comme ça, il y en aura d'autres. Cette fois, il ne faudrait pas qu'on soit pris de court. Cette fois, il faudrait qu'on ait un processus décisionnel qui soit plus riche, avec la place pour un débat contradictoire, avec différents points de vue économiques, épidémiologiques, médicaux, etc., qui permettent d'arriver à des décisions plus équilibrées et à des moyens plus adaptés, plutôt que de mettre la barre toute d'un côté en prenant le scénario le pire comme le scénario de référence.
D'accord. Alors, c'est intéressant que vous mentionniez la Norvège. Je voulais vous amener là-dessus parce que la première ministre de la Norvège a fait une déclaration, je pense que c'était cette semaine, dans laquelle elle disait « ben, je m'excuse, je me suis trompée. Beaucoup des décisions que j'ai prises étaient motivées par la peur et on a pris des mesures beaucoup trop strictes. » C'est quand même assez particulier qu'un chef d'État, qu'un chef de gouvernement admette qu'elle a pris des mauvaises décisions parce qu'elle était basée sur la peur.
Les pays scandinaves sont quand même réputés pour avoir une assez grande maturité sur le plan du personnel politique. Donc les gens ne sont pas sur un piédestal et ils sont relativement à même de reconnaître leurs erreurs quand ils en font. Je pense que c'est très sain et qu'il n'y a pas de raison que d'autres démocraties de même standing n'aient pas non plus la même maturité. De nouveau, personne ne peut jeter la pierre au gouvernement parce qu'au début du processus, personne ne savait à quoi on devait faire face. Donc qu'ils aient fait le choix, par exemple, de se voir reprocher d'en avoir trop fait plutôt que de se faire reprocher de ne pas en avoir fait assez, c'est tout à fait légitime. Donc, maintenant, on a plus d'informations, on a plus de recul, on sait qu'il y a d'autres options. C'est ces options-là qu'il faudra considérer pour l'avenir et les préparer avant de se retrouver en situation d'urgence. Donc peut-être sereinement avec des dispositifs en place, de type de réserves sanitaires, comme des stocks de masques, comme de réaménager par exemple les maisons d'aînés avec des dispositifs d'isolement pour les populations qui pourraient se trouver contaminées à l'avenir, former les personnels beaucoup mieux, les préparer pour qu'ils ne soient pas en mode panique quand ça arrive. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à faire entre deux crises, j'ai envie de dire, qui permettent d'être prêts quand la crise se présente à nous.
Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, bon, évidemment, votre étude, votre publication a été très contestée. Dans la presse de ce matin, on a donné la parole à plein de gens qui disent que vous comparez des pommes et des oranges. Donc, moi, je lisais le texte de la presse de ce matin et je me disais, mon Dieu, les EDM, ils sont vraiment mis le doigt dans l'œil. Puis après, je suis allée voir votre publication qui est évidemment beaucoup plus nuancée. Et c'est surtout que dans votre publication, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas soit on confine complètement ou on fait rien du tout. C'est qu'il y a plein d'autres mesures qui auraient pu aussi être prises. Par exemple, faire des tests de façon massive, comme ça a été fait en Corée, le port du masque, isoler les personnes. Une fois qu'on a isolé les personnes qui sont atteintes, ben, les soigner, les traiter à part. Ce qui n'a pas été fait au Québec, des tests massifs, on n'a jamais eu ça au Québec.
C'est exact. Et l'idée, c'est bien de dire ça, c'est-à-dire entre le confinement intégral non ciblé de la population et ne rien faire. Alors, évidemment, il y a toute une gamme de mesures intermédiaires et d'options qui auraient pu être choisies. Mais voilà, on a pris de nouveau l'option la plus intégrale ou la plus radicale de confinement.
Oui, et c'est ça, c'est important parce que M. Campan, c'est que vous parlez d'un isolement, d'un confinement non ciblé. C'est qu'on aurait pu dire, oui, on confine les personnes vulnérables, on confine les personnes âgées, on confine les personnes qui ont des problèmes de santé, de comorbidité, et protéger donc la population vulnérable en disant, ben vous êtes confinés, mais le reste de la population, non. Les enfants, par exemple, le fait qu'on ait fermé les écoles, il y a plein de choses qui nous pointent en la direction de dire, ben on n'aurait pas dû fermer les écoles.
Absolument, mais de nouveau, ces informations que vous mentionnez, c'est-à-dire la connaissance des populations les plus vulnérables, le fait que les enfants, finalement, sont très peu contagieux et contractent très peu la maladie. Ça, c'est des faits qui se sont révélés au fur et à mesure.
Donc, oui, mais on le savait quand même. Excusez-moi, M. Campan, mais on le savait quand même. En Italie, les gens mouraient comme des mouches dans les résidences pour personnes âgées et on pouvait très bien en déduire qu'au Québec, ce serait la même chose. Donc, il y a aussi quand même un manque de préparation à ce niveau-là, non?
Oui, on pourrait dire qu'il y a un certain défaut d'anticipation et qu'il y aurait pu, il y aurait pu avoir des mesures, mais en même temps, vous savez, des années et des années de sous-investissement dans les maisons d'aînés ou de manque de préparation ne peuvent pas se régler en quelques jours. Je pense que c'est aussi la leçon à retenir de cette histoire. C'est que il faut y penser à l'avance, il faut anticiper. Pour pas se retrouver au pied du mur en cas de crise comme celle-là.
Voilà. Et si jamais il y avait une deuxième vague, il faudrait être prêt. Gaëlle Campan, c'était passionnant comme discussion, donc j'encourage les gens, s'ils veulent se faire une tête, de pas se fier simplement sur ce qui est raconté dans les médias, mais d'aller voir la publication à la source pour après se faire sa propre opinion. Donc vous êtes économiste senior à l'IEDM et co-auteur de cette publication donc sur le confinement. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
Cube Radio.
Au fur et à mesure que les jours passent, les îles de la Madeleine continuent d'être isolées. Il y a plusieurs personnalités publiques qui demandent à M. Legault de négocier de façon urgente pour que on puisse, tous les gens de l'extérieur puissent avoir un accès normal et sécuritaire vers les îles. On va en parler avec Jonathan Lapierre, qui est maire des îles de la Madeleine. Bonjour, M. Lapierre.
Bonjour.
J'ai envie de dire que la situation est plus qu'urgente. Qu'est-ce que ça représente, cette impossibilité physique pour les gens en ce moment de se rendre aux îles de la Madeleine en passant par les autres provinces, la Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard?
Ben, je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, la première grande difficulté qu'on vit, c'est d'abord et avant tout pour les résidents des îles de la Madeleine qui ont actuellement beaucoup de difficultés à sortir des îles par ce moyen de transport. Évidemment, avec un formulaire, il faut aller charger, faut aller télécharger un formulaire, remplir le questionnaire, et bon, avec toutes les inconnues là, qu'il peut avoir. Et ça, c'est seulement pour les résidents qui veulent, par exemple, aller à Québec ou à Montréal. Maintenant, on superpose à ça la difficulté ou l'impossibilité jusqu'à ce jour pour des visiteurs. Et lorsqu'on parle de visiteurs, c'est important de spécifier, on parle autant de membres de nos familles qui habitent, par exemple, à Québec, à Montréal ou ailleurs au Québec, que des personnes complètement inconnues qui viennent aux îles nous visiter et évidemment contribuer à l'industrie touristique. Alors oui, il y a une grande difficulté d'accès au territoire. Tout ça est causé par, comme vous le savez, la COVID-19. L'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick ont émis des réserves quand même assez importantes. Mais là, graduellement, on sent qu'il y a comme une certaine ouverture, il y a une espace de discussion qui a été créé, particulièrement au cours des derniers jours. On a entendu hier le premier ministre du Nouveau-Brunswick affirmer que pour lui, bon, les gens pourraient passer dans sa province en autant qu'ils arrêtent le moins possible et que ça soit fait de façon la plus sécuritaire et respectueuse du vœu de la province. Alors pour nous, c'est un signal extrêmement important. Vous allez dire, vous vous accrochez au moindre petit détail. Mais oui, on s'accroche au moindre petit
détail.
Bien
sûr.
Parce qu'il en va de la survie de l'industrie touristique des îles, qui est un des deux piliers économiques de l'archipel. Alors, pour nous... Avec la pêche, alors c'est fondamental.
Oui, alors, mais c'est très important la distinction que vous faites parce que, bien, c'est sûr que nous, on regarde ça de Montréal, puis on se dit, bon, ben c'est sûr que c'est plate si on peut pas aller aux îles de la Madeleine, mais là, vous leur mettez en contexte en disant, ben c'est pas juste ça, c'est juste que nous-mêmes, on peut même pas facilement sortir des îles et surtout l'élément familial de dire, même des gens qui ont de la famille aux îles, il y a comme toutes sortes d'obstacles sur leur route, ça n'a pas vraiment de sens, surtout qu'on fait partie du même pays. Là, je veux dire, c'est pas comme si c'était une frontière avec les États-Unis. Là, c'est le même pays. C'est quand même. Donc, vous sentez qu'il y a quand même une forme d'ouverture. Mais je voudrais vous entendre. Qu'est-ce que ça représenterait? Déjà, j'imagine que cette année, vous attendez à avoir moins de touristes que l'année dernière.
Oui, absolument. En fait, sur au cours d'une année normale, on peut s'attendre à avoir environ 80-85 000 visiteurs là, sur une base annuelle qui viennent aux îles de la Madeleine. cette année, la communauté des îles, les différents partenaires socio-économiques ont déjà fait leur effort. On a confié à la santé publique de la Gaspésie et les îles de la Madeleine le mandat d'analyser la capacité d'accueil du territoire des îles en lien avec la capacité d'accueil sanitaire.
D'accord.
On a un centre hospitalier aux îles de la Madeleine. Donc, on se dit, bon, il y a toutes sortes de méthodologies puis de façons de le calculer d'un point de vue de la santé publique. On dit, si la population des îles au cours de l'été passe de 13 000 personnes sur une base annuelle, supposant à 20 ou 25 000, combien potentiellement de cas de COVID pourraient se développer? De ces cas de COVID-là, combien, c'est quoi le pourcentage qui pourrait être hospitalisé? Et du pourcentage hospitalisé, quelle est notre capacité d'accueil au centre hospitalier? Donc, on a fait notre effort et on a déterminé que environ, on avait une capacité autour de 35 000 personnes, 35 000 visiteurs, étalés du 15 de juin au 15 de septembre, donc sur 3 mois, avec un débit progressif là, à partir du 15 de juin jusqu'au 15 de septembre. Alors pour nous, notre effort, il a déjà été fait. On acceptait d'emblée de sacrifier en quelque sorte 50 % de la capacité d'accueil normale. Et donc 50 % de notre économie principale. Alors pour nous, l'absence de visiteurs cette année sera complètement catastrophique sur le plan économique, mais sur le plan social aussi.
Bien
sûr.
Vous
savez, Mme Durocher, on parle de pratiquement 1800 emplois qui dépendent de l'industrie touristique, 1800 emplois sur une population de 13 000. Faites le calcul pour Québec, au pourcentage de la population. Faites le calcul pour Montréal, au pourcentage de la population.
Mais
on parle d'une entreprise ou d'une industrie qui est beaucoup plus gros que l'aéronautique, par exemple, ou que l'aluminerie, par exemple. Alors, pour nous, c'est fondamental.
C'est fondamental, mais j'aime beaucoup aussi le fait que vous rameniez ça sur un plan humain. C'est que la raison pour laquelle on fait du tourisme en allant aux îles de la Madeleine, c'est pas juste parce que vous avez des beaux paysages, c'est parce que puis j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je suis allée juste une fois dans ma vie aux îles de la Madeleine et j'en garde un souvenir vraiment ému. C'est que on va pas juste aux îles pour les paysages, on va aux îles pour les Madelinos.
Oui, ben vous avez totalement raison de le dire, et c'est comme ça qu'on a développé.
On s'ennuie de vous, on a hâte d'aller vous voir.
Ben exactement, puis on a hâte de vous voir aussi, croyez-moi. On a développé l'industrie touristique au cours des 3 dernières décennies, qui a été basée sur l'expérience. Nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on a développé, les gens viennent aux îles. Oui, c'est une destination de choix. Il y a des infrastructures, un parcours gastronomique, culturel et tout. Mais il y a une expérience qui est vécue lorsqu'on vient aux îles, et vous l'avez très bien saisi et décrit. Alors pour nous, c'est important de garder cet esprit-là. Et évidemment, la COVID a en quelque sorte chamboulé tout ça. Il y a une partie de notre population qui est quand même, si on est honnête, qui est quand même réfractaire parce que, bon, elle voit l'étendue de la pandémie au Québec. Donc, il a fallu discuter beaucoup, dialoguer beaucoup ici à l'interne, aux îles de la Madeleine, pour dire, écoutez, on se doit, oui, d'être prudent, de protéger notre population. Bien entendu, on ne veut pas plus que vous être contaminé par la COVID.
Bien sûr.
On veut pas plus que personne perde des proches à cause de cette COVID-là, mais on doit apprendre à vivre graduellement avec ce nouveau virus. On doit retrouver, semblant, guillemets, de vie normale. Et pour nous, ça passe par l'industrie touristique. Et vous savez, Mme Durocher, comparativement à Québec et à Montréal, c'est bon, on a des villes au Québec qui ont plusieurs saisons touristiques. À Québec, par exemple, pendant l'été, il y a une influence touristique quand même assez importante. À l'automne, avec les croisiéristes internationaux qui viennent nous visiter.
Puis il y a le carnaval.
Le carnaval. Ici, la saison touristique, c'est 12 semaines. Si on rate notre saison touristique, les travailleurs et travailleuses, les familles, les entreprises, ça va à 2021.
Monsieur Lapierre, parce que je dis votre nom, puis les îles de la Madeleine, puis je pense à Jean. Excusez-moi. Bon, Monsieur Lapierre, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Moi, j'aurais bien aimé cet été aller me recueillir sur la tombe, justement, de Jean qui repose aux îles. Une petite pensée pour lui aujourd'hui. Merci beaucoup, Jonathan Lapierre, maire des îles de la Madeleine. C'est comme ça que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Hugo Veilleux, Maude Boutet et Frédéric Mocoul à la recherche. Et merci à Gabriel Meunier à la mise en onde. On se retrouve lundi.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.